franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Régulièrement, nous faisons une pause dans nos parcours et traversées des départements. C'est le cas aujourd'hui avec un rendez-vous récurrent. Tiens, c'est marrant, récurrent. Je sais pas pourquoi je dis ça. Récurrent que nous établissons avec le labo de l'ESS. Le labo de l'ESS est le think tank dédié à l'étude et à l'expansion de cette économie sociale et solidaire que nous croisons quasiment chaque jour dans les initiatives portées par nos invités interlocuteurs. Aujourd'hui, nous abordons la dynamique internationale des solutions alternatives avec Jean-Louis Laville, sociologue et économiste. Le thème peut surprendre alors que nous donnons la parole à des personnes qui interviennent à une échelle locale. Pourtant, le modèle économique de l'ESS, comme on l'appelle, s'applique à de nombreux terrains de pays développés ou de pays en voie de développement, du local au global. Voici l'ouverture d'une autre réflexion.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Louis Laville, bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis, vous êtes professeur au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers.
C'est cela.
Et puis vous êtes spécialiste aussi depuis nombreuses années d'une économie sociale et solidaire que l'on éprouve quasiment tous les jours dans les carnets de campagne, auteur de nombreux ouvrages. On va s'intéresser d'ailleurs à l'un d'eux en particulier, l'économie solidaire, une perspective internationale chez Pluriel. Il y a un folio actuel aussi, Dictionnaire de l'autre économie, sous votre direction avec Antonio David Catani. Ce qui nous intéresse, c'est la perspective internationale, effectivement, parce qu'on a, vous savez, à chaque fois on se dit « Ah, méfiez-vous, le social et le solidaire, c'est quand même une économie de proximité qui a des limites d'expansion et qui ne passera uniquement que par le local. » Est-ce que, comme des acteurs disent, nous on agit local mais on pense global, on peut considérer qu'effectivement il y a une portée internationale de l'ESS?
Je crois que Philippe, vous y avez été confronté souvent. Oui. Les gens sont un peu sceptiques. Oui, d'accord, c'est sympa, ces initiatives locales, mais est-ce que ça peut vraiment avoir une influence sur l'économie de demain? Est-ce que c'est pas finalement un peu accessoire? Mais je crois que ce qui nous permet aussi de changer le regard, c'est le fait que les initiatives locales dont vous parlez vraiment tous les jours, c'est un phénomène qui n'est pas uniquement en France. C'est un phénomène qui aujourd'hui est visible dans le monde entier. En fait, il y a eu un peu trois temps. Il y a eu le temps de l'économie sociale traditionnelle, hein, jusque dans les années 60-70, les associations, les coopératives, les mutuelles, des troupes d'entreprises non capitalistes. Et puis ensuite, il y a eu depuis les années 70, une vague dans tous les continents de nouvelles expériences, hein, qui se sont peu à peu regroupées sous la terminologie d'économie solidaire. Et depuis le début du 21e siècle, ces expériences engendre de nouveaux cadres législatifs et réglementaires dans une multitude de pays, ce dont témoigne par exemple la création de l'interagence de l'ONU sur l'économie sociale et solidaire.
On parle donc d'une internationalisation du mois de l'ESS, pourquoi pas une mondialisation?
Ça a déjà existé d'une certaine façon, puisqu'il y a déjà eu des rencontres mondiales de l'économie sociale et solidaire qui ont été organisées plusieurs fois dans plusieurs continents. Ça a commencé dans les années 90 au Pérou, puis ça s'est continué au Québec, au Sénégal et puis en Asie, la dernière fois en Thaïlande. Il y a effectivement des circonstances dans lesquelles c'est impressionnant. Je prends un exemple qui nous est proche, celui de la Catalogne. Il y a une enquête qui a été faite en 2012. Il y a plus de 90% de la population qui est impliquée au moins dans un de ces réseaux de l'autre économie. Ça veut dire que ce qui est important dans l'économie sociale et solidaire, c'est que ça vient résoudre des problèmes qui, en fait, n'ont pas pu être résolus d'une autre manière.
Ça a été le cas il y a quelques années aussi en Argentine. Et les coopératives ont été là pour presque redresser la barre.
Elles sont toujours là d'ailleurs, hein, parce que c'est un mouvement d'une grande ampleur. C'est le mouvement qu'on appelle en Argentine de récupération des entreprises. C'est-à-dire que des salariés qui n'avaient plus de propriétaires ont repris leur entreprise. Et là où ça crée des relations qui sont nouvelles, c'est qu'en fait, ces reprises se sont faites avec ce que l'on appelle le barrio en Argentine, c'est-à-dire le quartier.
Dans les carnets, régulièrement, des expériences qui jaillissent en France trouvent des racines au Québec. Alors, est-ce que le Québec serait une terre d'innovation sociale ?
Le Québec, il y a vraiment eu un moment important, c'est le moment des sommets socio-économiques. C'est-à-dire que pour la première fois, on a essayé de réfléchir sur l'avenir du Québec, pas simplement les partenaires sociaux et l'État comme on faisait d'habitude, mais avec tout un tas de partenaires associatifs qui sont venus se joindre à cet effort. Et là, véritablement, ça a engendré une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Et puis, ils ont un truc, les Québécois, que nous, on n'a pas encore réussi véritablement à visibiliser, c'est l'alliance forte avec les syndicats. Et ça, ça a été un point extrêmement important dans l'essor de l'économie sociale et solidaire au Québec.
Et le Québec, qui fait partie, donc, puisque vous faisiez référence à cette Assemblée générale de l'ONU, le 22 septembre 2014, la tenue de la première réunion du groupe pilote international de l'ESS, soutenu par le gouvernement français et les États membres du groupe pilote, donc sont la France, l'Équateur, le Maroc, le Luxembourg, la Colombie et le Québec. Et
vous voyez qu'on est sur pas mal de continents déjà.
Bien sûr, ouais. Et alors, on parle à nouveau de promotion de l'ESS, mais on le dit localement ou régionalement pour les chambres régionales d'économie sociale et solidaire en France, c'est de faire de la promotion. On n'en voit pas toujours, c'est pas critique, mais quand même, dans la visibilité, on n'en voit pas toujours les effets très concrètement. Promouvoir l'ESS, ça veut dire quoi à nouveau ?
De ce point de vue-là, il y a un manque. Mmh. Et pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a en fait trois scénarios qui n'envisagent pas l'économie sociale et solidaire de la même façon. On parlait des pays sud-américains. Dans ces pays sud-américains, il y a des cas de figure qui sont différents, mais c'est aussi le cas en Europe. Soit on considère en gros que l'économie sociale et solidaire, c'est une nouvelle politique sociale qui va permettre de faire surtout de l'insertion. Soit on considère que c'est un secteur des PME, composé principalement de coopératives. Soit on considère, et à mon avis, c'est là où c'est le plus dynamique pour demain, on considère que c'est un élément qui favorise, qui facilite la transition sociale et écologique dont on a besoin. Et c'est de ce point de vue-là que vous citiez l'Équateur comme la Bolivie. Là, ils ont vraiment une expérience qui nous incite à réfléchir, là aussi, parce qu'ils ont une nouvelle constitution qui a été votée en 2008 à partir d'un processus participatif de tout le pays. Et ils ont dit, en fait, on poursuit tout le temps, depuis un siècle, la croissance maximale, en considérant que c'est celle-ci qui va résoudre tous les problèmes. On est bien dans cette situation encore en Europe. Mmh. Ils ont dit que peut-être il faut réfléchir, là encore. Réfléchissons en même temps qu'agissons. Hein, c'est toujours la même dialectique. Peut-être il faut trouver un autre objectif collectif. Et ils ont proposé le bien-vivre, qui est une notion des cultures indigènes andines, qui veut dire que on doit toujours se poser des questions sur les conséquences de nos actes, par exemple pour cette génération après. Qu'est-ce que deviendront les petits-enfants de nos petits-enfants à travers nous, ce que nous avons fait ? Et donc, ils ont proposé ce bien-vivre comme objectif. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est que si on prend le bien-vivre au sérieux, disent-ils, à ce moment-là, il faut qu'on ait une économie plurielle. Un secteur privé, un secteur public, ils sont nécessaires, mais aussi une économie solidaire qui vient répondre à un certain nombre de besoins de la société en complément que les secteurs privés et publics n'arrivent pas bien à cerner.
Jean-Louis Laville, invité de ses carnets de campagne avec le labo de l'ESS sur France Inter pour parler de la dynamique internationale de l'économie sociale et solidaire. Je suis quand même très étonné parce qu'on citait il y a un instant les pays membres de cet premier grand groupe pilote de promotion internationale de cette économie sociale. Il n'y a pas de pays africain alors.
Il y a le Maroc, il me semble.
Il y a le Maroc. Ah oui, alors, du Maghreb, pardon. Mm. Je pense à une Afrique noire qui aurait besoin aussi de nouveaux moyens de développement économique, puisque là aussi, il y a des impasses. Ce que nous connaissons chez nous, l'Afrique le connaît également.
C'est vrai que c'est un petit peu le Maroc qui a joué le rôle de tête de pont pour l'Afrique jusqu'à maintenant. C'est eux qui ont organisé, par exemple, la première rencontre africaine, mais il y avait quand même 19 pays qui étaient là. Donc je crois que c'est en train d'advenir en Afrique également. C'est toute la difficulté là de faire passer une économie que l'on a souvent qualifiée d'économie informelle, avec tous les mépris que ça peut entraîner aussi parfois, de la considérer autrement, de la considérer qu'en fait comme une économie populaire. C'est l'économie à travers laquelle les gens vivent. Et c'est celle-ci qui doit être plus soutenue par les politiques publiques. Mais c'est vrai que les politiques publiques en Afrique, ce n'est pas toujours évident. Et qu'à partir de cela, elle peut devenir une économie solidaire. C'est un peu cette trajectoire qui a été suivie dans d'autres pays du Sud. Et je pense que c'est cet itinéraire aussi qui est en train de chercher l'Afrique avec des pondérations diverses suivant les pays. C'est vrai que les plus en pointe encore aujourd'hui, c'est ceux du Maghreb.
Alors, preuve que l'économie sociale et solidaire est loin d'être informelle, Jean-Louis Laville, c'est l'engagement des pays d'Asie. Alors, c'est une nouveauté ?
C'est une nouveauté qui, là encore, prend racine dans des traditions culturelles. Hein, par exemple, au Japon, il y a tout un ensemble de traditions qui ont donné naissance à l'équivalent de ce que sont les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui les avaient préfigurées, les Teikei. Dans chaque pays, en fait, il y a une alchimie entre traditions et nouveauté qui se fait par le biais de l'économie sociale et solidaire. Et c'est quand c'est ancré dans une histoire en même temps qu'ouvert sur l'avenir que là, il y a vraiment des perspectives. C'est le cas au Japon, c'est le cas aussi dans des pays comme la Corée du Sud où il y a un développement très important de l'économie sociale et solidaire.
Dans les acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire, donc ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations, il y a des exemples typiquement français. Est-ce qu'ils se sont propagés ? Où est-ce qu'on trouve, en parallèle de l'émergence, par exemple, des grandes mutuelles en France, des mouvements équivalents dans d'autres pays sous d'autres latitudes ?
On parlait à l'instant de l'Afrique. Mmh. C'est vrai qu'il y a des coopérations entre des mutuelles francophones, françaises, mais aussi belges, justement, pour arriver à mettre en place des mutuelles de santé dans certains pays africains francophones également.
Est-ce qu'il n'y a pas une mise en concurrence ? Alors, je pense à l'échelle européenne, sur le statut, par exemple, des mutuelles d'assurance. Savoir, est-ce qu'elles elles vont avoir les mêmes principes de fonctionnement ? Ça veut dire s'ouvrir à un marché plus large et quasiment, au lieu de coopérer, d'entrer en rivalité.
Il y a un risque, c'est qu'en Afrique, l'économie sociale et solidaire soit un produit à nouveau d'importation. Mmh. Si tel est le cas, ça ne va pas marcher. C'est vraiment, et là je crois que c'est pour ça qu'il y a des opérations qui se font à travers des associations entre des mutuelles de terrain et des mutuelles francophones qui viennent d'ailleurs, mais c'est à l'écoute de ce qui se passe véritablement et de ce par quoi sont concernées les populations qu'on peut y arriver, pas en plaquant des solutions qui ont pu être valables aux normes et qui ne seront sûrement pas adaptées au terrain africain.
De toute évidence, donc, il y a cette reconnaissance internationale avec ces réseaux internationaux d'organisation de SS. Il y a les rencontres du Mont-Blanc, Thierry Jantet, chaque année. D'ailleurs, vous aurez un lien à notre page Carnet de Campagne et sur notre page Carnet de Campagne Facebook. Et puis, vous trouverez aussi le lien avec le labo de l'ESS, avec le CNAM et la bibliographie de Jean-Louis Laville. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je reviens une minute aux Alpes-Maritimes, fil rouge de cette semaine, tout en gardant un lien avec l'international. L'association Elia a un projet pilote de ressourcerie baptisé les faits contraires. J'aime bien, c'est les faits contraires, les faits magiques. Elia s'inspire d'un modèle partagé par plusieurs structures en Europe basé sur le principe de l'empowerment. Alors, mot assez difficile à traduire, mais qui peut signifier aussi bien la responsabilisation que l'accès à l'autonomie. Le fond de ce modèle social est de sortir des personnes de l'exclusion grâce à la formation, au travail qualifié, un logement et à des activités de loisirs. C'est pour ainsi dire un schéma intégral de vie qui englobe toutes les étapes du bien-être et de la réinsertion réussie. La seconde raison de notre coup de cœur aussi est que l'association collecte en particulier les fûts provenant de l'industrie de la parfumerie du Pays de Grasse et ces déchets sont transformés en mobilier d'intérieur, en accessoires de décoration par des femmes, des fées, en insertion et le résultat est très très convaincant. Il y a un lien aussi, c'est elia06.org. Juste avant de nous séparer, on va continuer. La semaine prochaine, nous serons dans Lyon, ensuite la Nièvre, et puis le Cher, d'où vous pouvez toujours nous écrire tout de suite à Cannes, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros.